Bonjour, aujourd'hui la cinéaste officielle du régime nazi, Leni Riefenstahl.
Le travelling est une affaire de morale. Jean-Luc Godard.
On dit souvent qu'un artiste ne peut créer un chef-d'œuvre en se mettant au service d'un despote. Si c'était vrai, les peintres de la Renaissance italienne n'auraient produit que des croûtes, les architectes de Louis XIV auraient raté le château de Versailles, Eisenstein réalisé des films de série B, et les musiciens de cour n'auraient pas existé. Les dictateurs ne tuent pas nécessairement le talent. Ils sont même parfaitement capables d'en profiter. C'est ainsi que dans les années 30, une des plus grandes réalisatrices du XXe siècle a beaucoup plus contribué à nazifier les Allemands que la lecture indigeste de Mein Kampf. Elle s'appelait Leni Riefenstahl, et à la demande de Hitler, elle a produit deux des films de propagande les plus importants de l'époque, Le Triomphe de la Volonté et Les Dieux du Stade. Jamais on n'avait si bien filmé la politique et le sport, jamais non plus on n'avait mis autant d'efficacité au service de l'idéologie la plus meurtrière de l'histoire.
Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
Hitler ouvrant les Jeux Olympiques de Berlin en 1936, un extrait du film de Leni Riefenstahl, Les Dieux du Stade. Antoine Debecq, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du cinéma, journaliste à Libération. Alors, comme beaucoup de critiques, vous admettez que les films de Leni Riefenstahl sont plutôt esthétiquement des réussites. Mais est-ce qu'on peut dire d'un film comme celui-là, comme Le Triomphe de la Volonté, qu'il est beau quand on sait ce qu'il y a derrière les images, c'est-à-dire tout simplement le régime nazi?
Oui, c'est un problème qui est difficile de résoudre. C'est-à-dire que la beauté d'un film, qu'est-ce que cela veut dire? Pour Leni Riefenstahl considérait que la beauté était une sorte d'absolu et que d'une certaine manière, on pouvait filmer absolument n'importe quoi du moment que c'était beau, justement, et que qu'elle le filmait bien. Et donc, pour elle, quand on lui demande si Le Triomphe de la Volonté est un film nazi, elle vous dit non. Est-ce que c'est un beau film? Elle vous dit oui. C'est-à-dire qu'elle elle sépare, en quelque sorte, ce qu'on pourrait appeler le fond et la forme, se prend d'une sorte d'amour presque absolu pour la forme du film, pour l'esthétique du film, et donc elle défendra mordicus jusqu'à ce que son dernier souffle cette idée-là.
Vous dites le contraire, hein, oui. Antoine Debecq. La beauté, dites-vous, et avez-vous écrit dans Libé, la beauté absolue et le culte de la belle image sont les pires ennemis du cinéma. Pourtant, quand même, l'objectif de l'artiste, en principe, c'est de faire quelque chose de beau.
Pour moi, l'objectif de l'artiste et, je dirais, du cinéaste, c'est beaucoup plus d'être dans ce qu'on pourrait appeler une transcription de la vie. C'est pour moi, ce qui est beau, c'est ce qui est vivant, c'est ce qui est, et il n'y a pas de la vie n'est pas belle, elle n'est pas dans une absolue beauté. Il y a des la vie est faite de mélanges, elle est faite de choses qui sont belles, d'autres qui sont laides, d'autres qui sont amusantes, d'autres qui sont tristes. Il n'y a pas d'absolu, je pense. Et le cinéaste, pour moi, c'est justement celui qui arrive à retranscrire cela. Et c'est en cela que je pense que la beauté absolue est quelque chose qui personnellement me glace, et je pense que aussi bien un cinéaste qu'un peintre qui vise à la beauté absolue, c'est pour moi quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte de glaciation de l'univers.
Alors Leni Riefenstahl, elle est toujours vivante, elle a eu 100 ans il y a un mois. Vous dites, Antoine Debecq, qu'au fond, toute sa vie, justement, elle a été fascinée par la beauté, qu'elle l'a cherchée dans plusieurs métiers, comme photographe, comme cinéaste, comme comédienne, et en commençant par le premier de ses métiers qui était, je crois, d'être danseuse.
Oui, Leni Riefenstahl était une jeune allemande qui s'est très vite émancipée. Elle a toujours dit d'ailleurs qu'elle était une sorte d'égérie féministe. Hein. Et elle s'est émancipée d'un père qui est une sorte de petit tyran domestique pour rejoindre une des principales troupes de danse berlinoise de l'époque et devient très vite à 20 ans une des jeunes danseuses de la compagnie. Et donc elle oui, c'est ça, son premier attrait, je dirais, autant que la danse, c'est le culte, une sorte de culte du corps, c'est arriver à fabriquer, à créer une langue par les corps, le corps, par les gestes, par les mouvements, et c'est quelque chose qui va sans cesse la fasciner. Et donc elle commence comme ça, comme danseuse, et puis à un moment elle se blesse, et donc elle est obligée d'arrêter la danse, et c'est à ce moment-là qu'elle rentre en quelque sorte dans la carrière de cinématographique, puisque elle devient l'égérie, la jeune comédienne star d'un genre qui est très à la mode au milieu des années 20 en Allemagne, qui est le film de montagne. Le film, souvent, ça se passe l'hiver, dans les grands glaciers, des histoires à la fois romantiques et romanesques, et puis épiques, de conquêtes, de sommets, en Fanck, qui est le grand cinéaste qui invente le genre dans les années 20, devient un petit peu le mentor, le Pygmalion de la jeune Leni Riefenstahl, qui est une jeune femme très belle, avec
toutes les photos.
Grande femme, une grande beauté allemande, comme ça, qui fait de un peu la concurrence aux autres grandes beautés allemandes de ce moment-là, comme Leander, par exemple, qui est la. Enfin, donc c'est sûr que Leni Riefenstahl, la jeune Leni Riefenstahl, est une jeune personnalité du cinéma qui compte à la fin des années 20.
Cela dit, elle a envie d'être plutôt derrière la caméra. Elle commence, après s'être initiée à la technique du cinéma avec Fanck, elle commence à réaliser elle-même un premier film, La Lumière Bleue. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Antoine de Beck, est-ce qu'il apporte quelque chose au cinéma, est-ce qu'il est important?
C'est un film très formel, c'est un film de 1932 qui est tout à fait visible aujourd'hui, au sens où c'est un film qui a bien sûr les défauts un petit peu de ce genre de film, c'est-à-dire que c'est l'histoire compte finalement assez peu, c'est l'histoire d'une jeune sauvageonne qui voit une lumière dans la montagne et qui veut absolument comprendre ce que c'est, et donc ça se passe dans les Dolomites, elle va monter à main nue sur le long des falaises pour trouver une mine de diamants, et donc l'histoire n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ce qui reste c'est l'esthétique, c'est presque une sorte d'esthétisation absolue qui est déjà le propre de Leni Riefenstahl, et c'est un film qui va marquer à l'époque Charlie Chaplin, Eisenstein ont vu ce film et ont été tout à fait intéressés par cette jeune femme de 30 ans qui réalise un film qui est un beau film.
Alors, il y a quelqu'un qui l'a vu aussi, c'est Hitler. Alors, justement, le film sort en 32, date à laquelle Leni Riefenstahl découvre Hitler dans un meeting à Berlin. On écoute d'ailleurs le souvenir qu'elle en a gardé au micro de Sandra Mechberger, Leni Riefenstahl, dans un documentaire diffusé sur Arte le 15 août dernier.
À l'époque, j'étais soulevée, comme des milliers d'autres qui se trouvaient ce jour-là dans le palais des sports. Ils débordaient d'enthousiasme, comme hypnotisés. Et moi, je n'étais qu'une parmi d'autres. Ils étaient fascinés, sautaient, criaient comme des fous. C'était contagieux. C'était le début et j'étais curieuse de voir cet homme capable de soulever les foules.
Was ist denn das eigentlich für ein Mensch, der so die Leute in Verzückung bringen kann?
Nach 4 Jahren werden wir vor der Nation hintreten und sie wird, denn sie muss uns dann feiern!
Dès que Leni Riefenstahl a entendu de découvre Hitler, elle est complètement fascinée. On a presque dit que c'est plus une fascination esthétique que politique ou idéologique. Elle n'a d'ailleurs jamais adhéré au parti nazi, je crois.
Oui, Leni Riefenstahl s'est toujours défendue de cela. C'est vrai, elle n'a jamais adhéré au parti nazi. En même temps, elle était une proche d'Hitler. Elle est devenue assez vite une proche d'Hitler, puisque Hitler lui-même aussi était fasciné par Leni Riefenstahl. On peut même dire qu'il était presque amoureux de cette femme.
Et avant, d'ailleurs, elle lui demande un rendez-vous. Elle l'obtient. Nous sommes en 32.
Oui, il n'est pas au pouvoir.
Donc Hitler n'est pas au pouvoir encore.
Hein, oui. Donc il y a quand même une proximité et une fascination pour... alors, comment appeler ça? Moi, je dirais que c'est une sorte de fascination pour un homme qui est capable de transporter les foules, comme ça. C'est le rêve de tout cinéaste, surtout de cinéaste épique, comme l'est Leni Riefenstahl, ou comme elle rêve de l'être. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de diriger, comme ça, des centaines de figurants. Je pense que on pourrait appeler ça une sorte de fascination esthétique, effectivement. En même temps, elle est quand même proche d'Hitler, au sens où, politiquement, elle ne s'est jamais opposée non plus au nazisme.
Fascination réciproque, hein, je crois qu'il était amoureux d'elle.
Oui, en tout cas, c'est ce que Leni Riefenstahl le dit avec une certaine complaisance. Elle dit que Hitler était follement amoureux d'elle et qu'elle, par contre, a toujours eu, non pas une répulsion physique, mais en tout cas, a toujours été absolument indifférente physiquement à ce petit homme. Les hommes qui ont compté pour Leni Riefenstahl étaient toujours des très grands athlètes, effectivement. Donc, peut-être qu'on peut imaginer cela.
Elle dit aussi qu'à ce moment-là, en 32, Hitler lui dit « Quand nous serons au pouvoir, nous les nazis, nous ferons appel à vous, hein, nous aurons besoin de vous. » Et c'est ce qu'elle dit dans ses mémoires, hein, publiées en 92, donc c'est bien après. Elle dit qu'elle aurait refusé parce qu'elle lui reprochait ses préjugés raciaux.
En tout cas, elle a quand même tourné pour Hitler deux films, les deux en 1933 et 1934, sur les parades nazies à Nuremberg. Donc c'est sûr que... Enfin, je dirais que c'est très ambigu. C'est-à-dire que Leni Riefenstahl a refusé des commandes d'Hitler. Hitler, surtout après ses deux premiers films, lui a passé beaucoup de commandes et elle en a refusé beaucoup. Mais c'est plutôt, je dirais, plus un refus par rapport à ce qu'on pourrait appeler une sorte de producteur qui vous propose des histoires qui vous intéressent pas, que un refus proprement politique. C'est-à-dire que si Hitler lui avait proposé une histoire qui intéressait Leni Riefenstahl, elle l'aurait fait immédiatement.
Quand Hitler lui fait des propositions de films, c'est qu'il est arrivé au pouvoir, nous sommes en 33, il va le faire d'ailleurs, elle va accepter. Il faut rappeler que Hitler, que le nazisme attachait une grande importance au cinéma comme instrument de propagande.
Oui, le nazisme, et pas seulement le nazisme, toutes les totalitarismes, tous les dictatures ont considéré que l'art en général, et le cinéma en particulier, qui était quand même l'art le plus populaire, devait être un instrument de la conquête des esprits, et une conquête des esprits qui pouvait se faire par la forme, justement, par les sens, par l'idée d'une sorte de plaisir des sens et de fascination pour la beauté, là aussi, la belle chose, les belles histoires. Et donc, oui, Hitler a beaucoup tenté de séduire des cinéastes. Il y a eu Fritz Lang qui a immédiatement refusé. Il y a eu un autre grand cinéaste allemand qui est devenu connu aux États-Unis sous le nom de Douglas Sirk qui a aussi refusé. Donc c'est sûr que Hitler était avec Goebbels très intéressé par le cinéma.
En tout cas, il demande donc à Leni Riefenstahl de tourner un film. Ce sera le triomphe de la volonté, le congrès du parti nazi à Nuremberg. Elle va obtenir pour ça des moyens considérables. On écoute Leni Riefenstahl rappeler comment s'est fait ce film, qu'elle est qui allait définitivement la compromettre, donc le triomphe de la volonté.
Wissen Sie, das ist eigentlich dadurch gekommen, dass Hitler in mir eine Begabung sah.
Le film s'est fait parce qu'Hitler avait reconnu mon talent. Et il voulait absolument, et ce avant même d'être nommé chancelier, que je fasse ces films. Et ce film, le triomphe de la volonté, est dû à mon seul mérite.
Und du, Kamerad, aus Bayern! Und du! Vom Kaiserstuhl und aus Königsberg, vom Schwarzwald, aus Dresden.
Ein Volk, ein Führer, ein Reich, ein Land.
J'ai tourné ces images, comme on tourne des images, sans me poser de questions, sans penser à leur impact. Pour moi, l'important était de faire de bonnes images. Mais je ne me suis pas soucié de l'effet qu'elles produiraient.
Mmh.
Alors, l'effet de ce film, si on veut la volonté, Antoine Debecq, a été considérable. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en plus, nous sommes depuis déjà 7 ans dans le parlant. Ce film, bon, il est sonore, on entend bien sûr, on a entendu, mais il n'y a aucun commentaire. C'est-à-dire que, au fond, il a été efficace avec la seule force de l'image et du son.
Mais c'était la volonté express de Leni Riefenstahl. Elle le dit d'ailleurs dans le passage qu'on a entendu, ce qu'elle voulait, c'est filmer bien. Et c'est ça, le film est bien, c'est-à-dire, c'est ça pour elle qui comptait, ce n'est pas effectivement le discours de propagande qui pouvait contenir le film. Alors, en même temps, quand on dit filmer bien les parades d'Hitler et les parades des nazis à Nuremberg, c'est sûr que on est proprement dans le film de propagande et c'est presque encore plus, terrifiant de filmer bien ces parades que de les filmer mal d'une certaine manière.
Sur le plan technique, qu'est-ce qu'elle a apporté dans ce film? C'était très impressionnant. Les moyens étaient considérables.
Elle a pu multiplier les angles de prise de vue. Elle a pu multiplier les travelling, les mouvements de caméra. Elle a bénéficié effectivement d'absolument tout ce qu'elle désirait. C'est une sorte de film de presque de caprice de diva, quoi. Et tout ce qu'elle voulait, elle l'a obtenu, et donc elle a fait le film, enfin je dirais de son film absolu, c'est son film préféré, hein, Leni Riefenstahl, Le Triomphe de la Volonté, c'est là où, selon elle, elle exprime la quintessence de son art, c'est-à-dire cette exaltation de la beauté virile, des mouvements, des corps des hommes, etc.
Alors elle obtient avec ce film le prix de la Mostra de Venise, la médaille d'or de Paris, et puis surtout la commande par le Comité International Olympique, par le CIO, non plus par le gouvernement allemand, d'un autre film, le film des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, Les Dieux du Stade, qui s'appelait aussi, je crois, Olympia, sur les Jeux Olympiques de 36. Là, il s'agit d'athlètes et non plus de SA et de SS. Est-ce qu'on peut parler de film de propagande, Antoine Debecq?
Il se trouve que Leni Riefenstahl filme à peu près de la même manière des athlètes, même s'ils sont noirs américains comme Jesse Owens. Elle a tenu à garder Jesse Owens dans le film alors que des dignitaires allemands. Donc elle se prévaut de ça. Elle dit, mais moi je ne suis pas raciste, j'ai mis le noir Jesse Owens. Mais il se trouve qu'elle filme ses corps exactement de la même manière qu'elle filme les soldats nazis qui défilent en 34 à Nuremberg. C'est ça quand même le gros problème chez Leni Riefenstahl. C'est que elle crée ce qu'on pourrait appeler une esthétique de la force virile, de la beauté comme ça corporelle, qui est l'esthétique du nazisme. On peut pas échapper à cette réflexion et à cette logique là.
Mais ça a du succès quand même dans le monde entier. Elle va d'ailleurs défendre, présenter son film un peu partout dans le monde, notamment à Paris. Écoutez, où elle arrive en 1938.
Madame Leni Riefenstahl, qui a mis en scène le merveilleux film des Jeux Olympiques, arrive maintenant. Elle est accueillie sur l'escalier par Monsieur Armand Massard et elle est accompagnée par l'ambassadeur d'Allemagne. J'espère que Madame Leni Riefenstahl va venir jusqu'au micro pour nous dire quelques mots.
Je suis heureux de présenter aujourd'hui aux Parisiens ce film olympique qui m'a donné beaucoup de peine et m'a valu beaucoup de joie. C'est la passion de sportif, je suis sûre. Mais j'ai la considération artistique que j'espère recueillir à Paris, capitale des arts plastiques.
Alors c'est des propos un peu convenus de Leni Riefenstahl à Paris, donc en 1938, mais elle ira aussi dans d'autres pays européens, elle ira aux États-Unis où elle est déjà connue. Voyons comment parlent d'elle les journaux européens et américains des années 30, la revue de presse Stéphanie Duncan.
Oui, à partir de 1933, la renommée de Leni Riefenstahl, en bon ou en mauvais d'ailleurs, dépasse rapidement les frontières du Reich. En décembre 33, par exemple, à la sortie de son film « La victoire de la foi », on lit dans l'Observer de Londres. Ce film est une longue apothéose de l'esprit de César, avec Hitler dans le rôle de César. Nous espérons qu'il sera projeté à l'étranger, afin que le monde entier comprenne à quel point l'intoxication est de nos jours répandue en Allemagne. En France non plus, hein, on n'est pas dupe. En 1937, Paris Soir consacre une page entière, avec force photo, à celle qui incarne, je cite, « la mystique de la nouvelle Allemagne, ses boucles déployées, son drapeau de cheveux, la flamme de son regard ». La moue sauvage de sa bouche répond assez justement au goût cascadeur et fruste des jeunes nazis. On l'appelle tout simplement Miss Troisième Reich. En parmi ses admirateurs, l'écrivain Jean Cocteau. « Ma très chère Leni Riefenstahl, lui écrit-il, comment ne serais-je pas votre admirateur, puisque le génie du cinématographe vous habite et que vous avez porté le film à des altitudes où il ne monte pas d'habitude. Ce serait donc une joie de vous connaître. » Alors cette renommée va traverser même l'Atlantique. En 1937, un journaliste américain décrit celle qu'il nomme l'éminence grise d'Hitler. Une femme étonnante, dit-il, très déterminée. Elle a les cheveux noirs, s'habille selon la mode de l'Allemagne nazie, simple et pratique. Ses yeux brillent de vie et d'esprit, mince, sportive. Elle se déplace avec désinvolture et arrogance. Mais lorsqu'elle débarque à New York, donc le 4 novembre 1938, l'accueil américain là est plutôt froid. Et surtout à Hollywood, là à Hollywood, les syndicats lancent une pétition contre celle qu'il appelle la chérie d'Hitler. À Hollywood, il n'y a pas de place pour Leni Riefenstahl, dit cette pétition, alors que nos frères, par centaines de milliers, attendent une mort certaine. Fermez vos portes aux agents nazis. Signez cette pétition. Il faut rappeler qu'à Hollywood sont arrivés beaucoup de cinéastes et d'acteurs allemands, exilés, juifs ou opposants politiques. Fritz Lang, vous en parliez, Joseph von Sternberg, Marlène Dietrich, Ernst Lubitsch refuseront d'ailleurs de rencontrer Leni Riefenstahl, d'autant qu'est arrivée d'Allemagne la nouvelle de la nuit de cristal le 9 novembre 1938, l'attaque et la destruction de milliers de synagogues et de magasins juifs par les nazis. Leni Riefenstahl revient en Europe avec un certain ressentiment contre le traitement que lui a réservé Hollywood, signale donc le New York Times quelques jours plus tard.
Alors elle fait moins l'unanimité qu'en Allemagne, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a quand même des éloges, il y a Cocteau qui voudra faire un film avec elle après la guerre.
Oui, c'est à la fois étonnant et je veux dire ça correspond à une certaine vision que Cocteau peut avoir de la beauté, de l'exaltation du corps masculin.
Dans la correspondance de Cocteau, faut pas oublier une chose que Gallimard a eu le courage de publier, c'est qu'il était, il admirait Hitler au début de la guerre.
Ah oui, cette esthétique a fasciné en Allemagne bien sûr, mais en Europe et en France en particulier, quand même, ça fait partie du prestige, je dirais, d'Hitler et du nazisme à l'époque. Cette esthétique.
Pendant la guerre, Antoine de Beck, elle ne tourne plus pour Hitler, elle tourne pour son compte. D'ailleurs, elle a même des difficultés matérielles, forcément, les Allemands ont autre chose à faire. On a l'impression qu'elle s'en détache un peu. Il faut dire qu'elle n'était pas, comment dirais-je, Goebbels ne l'aimait pas beaucoup, le ministre de la Propagande, ou plutôt il l'aimait trop, parce que dans ses mémoires, elle rappelle comment Goebbels lui courait après avec insistance.
Oui, là aussi, on peut imaginer qu'elle est assez complaisante avec la chose, mais c'est vrai que, je dirais, pour expliquer son attitude pendant la guerre de retrait, très effectivement relatif par rapport à ce qu'elle a fait avant-guerre. Je pense que à ce moment-là, son grand projet, ce sont des films de fiction. Alors, ce sont des films antiques, Penthesile, Tiefland. Ce sont des films sur les mythes, les grands mythes allemands. Mais ce sont des fictions et je pense que là, Hitler et Goebbels voulaient absolument la faire travailler comme une cinéaste de propagande, la faire aller sur le front pour filmer l'avance des troupes allemandes. Et ça, elle commence en Pologne et au bout d'une semaine, elle revient. Elle refuse de faire ça.
Donc, c'est un massacre, dit-elle.
Oui, c'est ça. Elle le justifie comme cela. En tout cas, il n'y a pas de concordance, je dirais, de sur le désir presque de cinéma. Elle veut partir dans ses histoires à elle. Et Hitler et Goebbels veulent la lancer sur le cinéma officiel du régime.
En tout cas, après la guerre, elle est arrêtée, interrogée par les Alliés en Autriche, où elle se trouve en zone française, d'ailleurs à Kitzbühel. Et c'est là qu'elle fait une rencontre incroyable. Écoutez, cette archive très rare, j'ai cru au début que c'était un sketch ou un canular. Apparemment, ce n'est pas le cas. Leni Riefenstahl, au micro de quelqu'un dont tout le monde reconnaîtra l'humour, Pierre Dac.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous parle ce soir de Kitzbühel. Kitzbühel, c'est dans le Tyrol. Je me trouve ce soir chez une artiste célèbre dont le nom va certainement vous rappeler pas mal de souvenirs. Leni Riefenstahl. Vous rappelez, madame Leni Riefenstahl, de votre visite à Paris. 1938, je crois.
On dit 1938.
Oui.
J'ai présenté mon film Les Dieux du Stade à Paris en 1929.
Vous avez gardé un bon souvenir de Paris?
J'aime Paris beaucoup.
Ah oui, je crois d'ailleurs que pas mal de vos compatriotes également. De 1940 à 1945, la guerre est arrivée. De 1940 à 1945, qu'est-ce que vous avez fait?
De 1940 à 1945,
j'ai été malade. Oui, je comprends, il y avait de quoi, parce que, évidemment. Il y a tout de même des maladies qui vous arrivent comme ça, on ne sait pas pourquoi.
C'est incroyable cette rencontre entre Pierre Dac et Leni Riefenstahl. On a trouvé ça dans un vieux disque de 1949, découvert dans les archives de l'INA. C'est assez extraordinaire. Alors, pour elle, 49, l'après-guerre, c'est évidemment le début d'une longue dégringolade. On n'a pas le temps d'insister dessus. Mais aussi d'autres activités. Elle va se consacrer à... D'abord, elle est accusée d'avoir employé notamment des tziganes, c'est-à-dire des gens de camps de concentration pour tourner son film Tiefland. Mais elle est aussi boycottée par le cinéma. Elle se tourne vers la photographie. Elle va en Afrique filmer les Noubas du Sud-Soudan. À 71 ans, elle apprend la plongée sous-marine. Elle va faire des films, d'ailleurs très beaux, je trouve aussi, de poissons. C'est quand même assez extraordinaire, cette vitalité et puis cet acharnement depuis 50 ans à se justifier, Antoine de Beck.
Oui, je pense que c'est ça qui l'a fait vivre d'une certaine manière et on vient de fêter son centenaire, effectivement. Leni Riefenstahl continue à la fois à se justifier de ne pas avoir été nazie, mais elle continue en même temps, ça qui est le plus étonnant et qui fait un petit peu froid dans le dos, qu'elle soit avec ses amis des Noubas dans le Sud-Soudan ou avec les petits poissons au fond de l'océan, d'une certaine manière, c'est ça qui... Elle continue à les filmer de la même manière qu'elle tournait les parades de Nuremberg en 1930.
Elle vous dira que c'est parce qu'elle aime la nature, elle a des rêves par exemple.
Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'elle justifie ses films de la même manière, toujours, sur la beauté. Et effectivement, on ne peut être qu'impressionné par les photos qu'elle ramène de chez les Noubas ou du fond des océans. Mais en même temps, ce sont des photos qui, pour moi, sont... quand même extrêmement, d'une certaine manière, compromettant, puisque elle arrive à transformer ces magnifiques athlètes noirs en soldats SA de Nuremberg.
Vous l'avez écrit d'ailleurs dans le Libération du 22 août, vous dites « Ces corps africains huilés, sublimes, ces couleurs foudroyantes, pêchées sous l'océan, ces formes déployées dans la perfection, ils pourraient défiler à Nuremberg, ce serait exactement la même chose. La vie de Leni Riefenstahl, c'est 100 ans de travelling dépourvu de morale. »
Oui, je pense que c'est enfin pour moi c'est quelque chose qui me choque toujours, que à la fois on puisse dire que ces films sont beaux, et effectivement sur des critères purement esthétiques ils sont beaux, mais pour moi les critères ne peuvent pas être purement esthétiques. On est obligé de tenir compte quand même du fond des choses, de ce qu'il y a dans ces films, et donc c'est pour ça que je pense que on ne peut pas filmer sans morale.
Merci Antoine de Beck. Je rappelle qu'on peut vous lire souvent dans les colonnes de Libération, où vous avez d'ailleurs écrit plusieurs articles sur Leni Riefenstahl. Pour en savoir plus sur elle, je vous recommande la lecture de ses mémoires, publiées chez Grasset, ainsi qu'une magnifique biographie en photo intitulée Leni Riefenstahl, 5 vies, de Inès Wauk, publiée chez Taschen. À noter la réédition également chez Taschen de deux livres, de photos de Leni Riefenstahl, Africa et Olympia. Vous avez pu entendre des extraits d'une soirée théma consacrée à Leni Riefenstahl et diffusée sur Arte en 2002, ainsi que des archives de l'INA et de la discothèque centrale de Radio France.